Madame et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette quatrième et dernière conférence sur les traces de double dans la culture ancienne. On a parlé dans la première des doubles homériques, les doubles qu'on peut rencontrer dans les poèmes d'Homère. Après, on s'est posé des questions un peu compliquées, énigmatiques, à propos de l'existence d'un double à côté de l'héros, ou de plusieurs doubles à côté de l'héros. Dans la troisième, l'héros mythique, dans la troisième, on s'est posé des questions peut-être encore plus énigmatiques à propos de l'identité de ces doubles bizarres et inattendus que la philosophie ancienne, notamment le stoïcisme et Lucrèce aussi, avaient créés. Et cet après-midi, on reviendra à la littérature latine et à l'Énéide de Virgile, notamment. Il s'agit d'un épisode qui est en même temps troublant et émouvant, qui est placé dans le troisième livre de l'Énéide. Et c'est une rencontre que l'héros aîné fait sur sa route vers Rome. Alors, dans le poème, à ce moment, dans le livre troisième, aîné est à Carthage. Il est à Carthage, là, assis, et il raconte l'histoire de son voyage après la fuite des Troyens de la ville brûlée et conquise par les Grecs. Donc l'histoire est arrivée au moment où les Troyens viennent de débarquer en Épire. Donc il y a eu cette étape-là, l'Épire. Qu'est-ce qui s'est passé en Épire? Les exilés ont déjà un long périple semé de quelques chèques derrière eux. En effet, sur les côtes de la Thrace, Aîné avait tenté de fonder une ville qui portait son nom, c'est-à-dire Aînéades. Il avait essayé de fonder une ville sur la Thrace Aînéades. Mais un prodige épouvantable, le sang de Polydore, avait forcé les exilés à s'enfuir précipitamment. Après avoir reçu un verdict au premier abord définitif à Délos, ce qui semblait définitif, Aîné tente de nouveau de fonder une ville en Crète. Cette fois, elle porte le nom de Pergamea. Donc la première, c'était Aînéas, la deuxième, Pergamea. Ce sont toujours des noms troyens. Mais les songes des pénates éloignent une fois de plus les Troyens de ce séjour. Enfin, comme nous le disions, ils atteignent les côtes de l'Épire, où Aîné apprend une nouvelle pour le moins inattendue. C'est une citation de Virgile. Là, un bruit incroyable vient frapper nos oreilles. Les Priamides Lénus règnent sur des villes grecques. Il est entré en possession de l'épouse et du sceptre de Léacide Pyrrhus. Andromaque est passé de nouveau à un mari de son peuple. Donc la grande Andromaque, la femme d'Hector, qui était devenue après la femme de Pyrrhus, est devenue maintenant la femme de Hélénus, c'est-à-dire encore un Troyen. Un frère d'Hector. L'héros troyen, Aîné, n'a pas plutôt débarqué, et c'est toujours Aîné là qui raconte, donc est très vivant dans l'histoire, n'a pas plutôt débarqué, qui lui vient l'envie irrépressible d'interroger Hélénus, si bien qu'il s'éloigne du port où les navires sont amarrés. Inutile de dire que les hasards et les coïncidences n'ont rien de fortuit, surtout en littérature. Arrivé aux abords de la ville, Aîné rencontre tout de suite Andromaque, qui, par hasard, dit le texte, par hasard, célébrait l'anniversaire de la mort d'Hector. Encore Virgile, par hasard, dans les bois à l'entrée de la ville, au bord d'un faux Simoïs, Andromaque offrait aux cendres un sacrifice solennel et des tristes offrandes, en invoquant les mânes sur les tombeaux vides d'Hector, qu'elle avait consacrés avec un vert gazon et des autels, source de larmes. Comme par hasard, l'arrivée des Troyens coïncide donc avec une date significative, l'anniversaire de la mort du héros. Et tout concourt à rendre l'événement encore plus exceptionnel. L'atmosphère de cette rencontre a quelque chose d'onirique. Ces jours-là, Aîné rencontre Andromaque. Mais où? Où sommes-nous? En Épire, devant la tombe d'Hector, nous dit-on, une tombe vide, inanime, puisque nous ne sommes pas à Troie. Pourtant, nous serions en droit d'en douter. Les tombeaux se dressent devant la ville. Or, nous savons que, par l'Iliade, que la crémation du corps d'Hector, suivie de l'érection de son tombeau, a eu lieu devant la ville. Donc, Virgile reprend là en épire la location de la tombe, encore que vide. Il y a aussi le fleuve. En effet, la tombe à laquelle Andromaque sacrifie se trouve au bord d'un faux Simoïs, falsi Simoentis ad undam. Une question s'impose. Qu'est-ce qui peut bien pousser Aîné à dire que ce fleuve est un faux Simoïs? Il n'a encore parlé à personne. Jusqu'alors, il a seulement vu apparaître la grande veuve absorbée dans ses sacrifices. La réponse à cette question s'impose tout autant. Ce fleuve ressemble tellement au Simoïs des Troyes qu'Aîné le reconnaît. De quelle façon? Je pense que l'émotion onirique née de cette rencontre tient en grande partie à ces détails, les falsissimoentis ad undam. Autrement, Baudelaire n'aurait pas mis cette phrase falsissimoentis ad undam en exergue à son signe. Aîné rencontre Andromaque qui sacrifie à la tombe d'Hector. Non seulement les tombeaux se dressent devant la ville, comme les vrais tombeaux, mais nous voilà à un endroit qui rassemble un lieu purement troyen. Comme si Andromaque avait derrière elle une toile de fond qui reproduisait clairement Troie et son paysage, de la même manière que les spectateurs reconnaissent sur les champs les Fujiyama derrière Madame Butterfly de Puccini. À ceci près que nous ne sommes pas au théâtre. Pour autant que nous sachions, les personnages ne sont pas en train de jouer cette scène, ils la vivent. La narration se poursuit avec les réactions d'Andromaque à sa rencontre avec Aîné. Voilà encore une citation de Virgile. Lorsqu'elle me vit arriver, elle, c'est Andromaque évidemment, lorsqu'elle me vit arriver et qu'elle aperçut autour de moi des armes troyennes, éperdue, bouleversée par ces grands prodiges, elle se figea à ma vue. Ses os se glacèrent, elle vacille. Et c'est avec peine qu'après un long silence, elle parle. Est-ce bien toi que je vois? Te présentes-tu à moi un vrai messager au fils de la déesse? Es-tu vivant? Ou, si la lumière de la vie t'a été ravie, où est Hector? Ce furent ces mots. Elle versa des larmes et remplit tous les lieux de ses cris. Dans un lieu troyen, donc, Andromaque se voit entourée d'armes troyennes et Aîné s'avance vers elle. Elle est effrayée. Pour elle, ces Troyens ne sont pas des hommes, mais des magna monstra, des grands prodiges. Andromaque, donc, rencontre un vivant Aîné et elle se demande tout de suite s'il est mort. Qui plus est, devant les revenants présumés d'une personne qui ne lui est pas étrangère, loin de là, elle pense immédiatement à un autre, Hector. Elle dit, es-tu vivant ou, si la lumière de la vie t'a été ravie, où est Hector? Elle pose tout de suite des questions sur lui, sur son mari, après quoi elle fond en larmes. Aîné pourrait être déçue d'un tel accueil. Elle n'a pas un mot pour lui, pas une question pour établir s'il est bien vivant ou mort. Sur les champs, son esprit se tourne vers Hector. Andromaque voit un vivant et elle pense qu'il est mort. Elle voit Aîné et elle cherche Hector. Nous commençons à comprendre que le monde dans lequel vit Andromaque, la femme qui a épousé le frère de son mari mort, est peuplé de doublures. Plus exactement, les vivants semblent servir de doublures aux morts, ou plutôt à un mort, Hector. Tel est le rôle de Lénus qui, en tant que mari, beau-frère, représente de quelque façon son frère. Mais il en va de même pour Aîné, peu importe qu'il soit ombre ou vivant, dès lors que son apparition suggère la présence d'Hector. Et tout ceci près d'un tombeau qui se dresse devant la ville, au bord d'un fleuve qui rappelle sur les champs les Simoïs des Troyes. Aîné s'explique, il rassure Andromaque. Lui aussi pose des questions, naturellement. Elle raconte son passé avec beaucoup de discrétion, à vrai dire. C'est un passé assez troublé, hein, la pauvre reine. Puis, elle pose d'autres questions. Mais toi, quel vent, quel destin ont conduit ta course? Quel dieu ignare t'a poussé sur nos côtés? Que devient le petit Ascagne, le fils d'aîné? Que devient le petit Ascagne? Il est encore vivant? L'enfant garde-t-il les souvenirs de sa mère perdue, son père aîné et son oncle maternel, Hector? L'incitait-il à monter l'antique vertu et un courage viril? Un nouveau personnage, le petit Ascagne, occupe à présent l'esprit d'Andromaque. Un instant seulement, toutefois. Elle ne sait même pas s'il est vivant ou mort. Aîné n'a pas encore répondu, que déjà ses pensées se tournent vers la mère disparue du garçon, Créuse. Reste-t-il le souvenir d'elle? Mais là encore, ses sentiments prennent aussitôt une tournure inattendue. Non pas parce qu'elle s'interroge sur l'animus viril et guerrier du garçon, cette préoccupation est au fond assez compréhensible pour l'héroïne d'un poème épique, mais plutôt parce que c'est encore lui, Hector, son obsession qui refait surface. Le souvenir de l'oncle Hector pousse-t-il l'enfant à des entreprises viriles? Arrêtons-nous un instant sur cette expression, l'oncle Hector, c'est-à-dire en latin « avunculus Hector ». C'est en apparence assez banal comme expression, « avunculus Hector », l'oncle Hector. Avunculus, c'est le mot qu'en latin indique l'oncle maternel, c'est-à-dire les frères de la mère, d'où les Français « oncle », par exemple. Alors, Servius, l'ancien commentateur de Virgile, nous fait savoir que, pour certains, ce mot « avunculus », oncle maternel, était un peu trop humble, humble pour trouver sa place dans un poème épique, « humilis ». Ces exégètes de l'Antiquité avaient peut-être raison du point de vue du style de genre littéraire, mais ils se trompaient quant à la substance de la poésie, car ce mot est essentiel pour comprendre les réactions d'Andromaque, pour suivre le fil tortueux de sa pensée, de ses pensées. Créuse, la femme d'Aîné et mère d'Ascagne, était aussi la fille de Priam, et partant, elle était la sœur d'Hector. Donc Créuse, la mère d'Ascagne, femme d'Aîné, était la sœur d'Hector. Donc Aîné et Hector étaient beaux-frères. Voilà pourquoi Virgile l'appelle Avunculus, oncle maternel d'Ascagne. Nous commençons à entrevoir la logique qui guide Andromaque à deviner pourquoi elle se soucie tant de savoir si Ascagne se souvient de sa mère disparue. Le garçon lui remet Créuse en mémoire parce qu'elle est la sœur de son Hector, l'homme qui occupe toutes ses pensées. Et tout de suite, d'ailleurs, voilà qu'il est nommé explicitement dans son rôle d'Avunculus du garçon. Puis, voici qu'Hélénus arrive. Mais c'est encore l'histoire d'Aîné, hein? Aîné qui raconte. Hélénus arrive. Mais le fils de Priam n'est pas comme sa femme, la veuve. Tout de suite, il reconnaît les siens, il est heureux de les conduire dans sa ville. Hélénus pleure lui aussi, naturellement, mais ce sont des larmes de joie qu'il verse. Et Aîné se dirige vers la ville. Et voilà encore une citation de Virgile. Je m'approche et je reconnais une petite Troie, Parva Troia, une petite Troie, et une Pergame qui imite la grande, et un ruisseau à sec qui porte le nom du Xanthe. Et j'embrasse le seuil d'une porte C, donc la porte Skeae, les portes Skeae qui étaient là elles-mêmes. D'autres doubles. Donc, il n'y a pas seulement les tombeaux vides d'Hector qui se dressent au même emplacement qu'il occupait à Troie, près d'un fleuve qui ressemble au Simoïs. La simulation troyenne s'étend à toute la ville, qui est une Troie à proprement parler, quoique Parva, une petite Troie. Il y a une Pergame, même s'il est plus petite, la porte C, jusqu'à l'autre rivière de Troie, l'Exante, bien qu'elle soit à Rennes, à sec, une image appauvrie du grand fleuve au profond tourbillon qui, selon Homère, coulait à Troie. Les exilés d'Hélénus ont donc reconstruit Troie. Ils sont parvenus à faire ce qu'Aîné a déjà tenté de faire deux fois en fondant les villes d'Énéades et de Pergaméa, et ce qu'il tentera encore de faire quand il cherche à réaliser aussi en Italie le rêve de sa Troia Recidiva, Troie revenue. Il essayera encore après cet épisode. Et c'est jusqu'à ce que les pactes entre Jupiter et Junon l'empêchent à tout jamais de réaliser son rêve et les forcent à accepter une fois pour toutes que Troie est morte pour toujours. Hélénus, de son côté, n'a pas eu à subir les injonctions d'un sort contraire, de sorte qu'il a pu rebâtir très exactement sa ville perdue. Ne serait-ce qu'un instant, Énée cède à la fascination de ces simulacres de ville et il embrasse le seuil de la porte C, comme s'il était de retour dans sa patrie. Il est aussi conscient de l'illusion qu'il la trouve parfaite. Il reconnaît à Gnosco la vraie Troie dans la fosse. La Parva Troia bâtie par Hélénus et Andromaque constitue une invention extrêmement singulière, pour ainsi dire, sans équivalent dans la littérature antique. Pourtant, cette invention est construite sur des matériaux qui existaient déjà tous. Paradoxalement, c'est ce qui fait la force de cet épisode. La fosse Troie des Boutrotes de l'Épire correspond à une sorte de bricolage magique, un kaléidoscope de fragments culturels préexistants qui, une fois qu'ils sont fondus ensemble, produisent un effet extraordinairement novateur. Essayons de voir brièvement ces fragments que la tradition mettait à la disposition du bricoleur et les réemplois que Virgile en a fait dans cet épisode. Commençons par les récits en tant que tels. Dans le cycle troyen avant Virgile, Hélénus s'était déjà établi à Boutrotes et Énée l'avait bien rencontré, plus ou moins dans cette région. Cette rencontre existait déjà dans la tradition du mythe d'Énée. Nous savons aussi que toujours dans cette région, il avait existé des toponymes liés à Troie, ou encore que Boutrotes elle-même avait porté le nom de Troie. De ce point de vue, Virgile n'invente pas une étape inexistante dans les périples d'Énée, ce qui lui arrive de faire à d'autres endroits du troisième livre. Il reprend une tradition précise, à ceci près que dans les réemplois virgiliens, c'est lié que la légende rapportée à Hélénus et à Troie sont devenues à proprement parler une deuxième Troie, identique à celle qui s'est dressée autrefois dans les Dardanelles. Voilà une grande invention littéraire, non plus une simple reprise de la tradition. Nous pouvons en dire autant de la décision d'Hélénus et d'Andromaque lorsqu'ils ont reconstruit leur ville perdue. Apparemment, il n'y a rien de nouveau là non plus. Comme nous l'avons dit, Énée lui-même avait cherché à rebâtir Troie et il le cherchera encore. Selon Servius, ce serait même le propre des exilés de reconstruire des villes semblables à celles qu'ils ont abandonnées. Et Servius, les commentateurs, dit « Nous savons en effet que les étrangers avaient pour habitude de recréer l'image de leur patrie. » De plus, l'historien italien Domenico Musti a bien montré que la tentation de bâtir, il dit, une ville semblable à Troie a souvent transparu dans l'histoire des colonisations grecques. Le monde antique nous donne d'ailleurs d'autres exemples de villes dédoublées en quelque sorte. Flavius Joseph raconte que lorsque le roi Antiochos Épiphane conquit Jérusalem et en chassa les partisans de Ptolémée VI, le grand prêtre Onias se réfugia chez Ptolémée. Et, citation de Joseph, ayant obtenu de lui un endroit dans le nom de Héliopolis, il y bâtit une citadelle sur le modèle de Jérusalem et un temple qui rassemblait au nôtre. Mais pas même la petite Jérusalem d'Onias, une simulation architectonique créée par calcul politique, par hostilité et par dépit, n'est comparable à la ville d'Hélénus et d'Andromaque, car ni cette petite Jérusalem, ni les villes semblables à Troie de la tradition grecque ne furent habitées par une noble veuve qui avait épousé son beau-frère et qui voyait des morts quand elle rencontrait des vivants. La Parva Troia de Virgile représente quelque chose de bien plus troublant qu'une simple imitation d'une ville qui se trouve ailleurs. Elle consiste en une tranche de passé vivant, habité par des personnes qui proviennent du passé et surtout par les fantômes de ceux qui étaient perdus dans le passé. La Troie d'Hélénus et d'Andromaque n'est pas une ville semblable à Troie. Elle est, à proprement parler, le double de la ville détruite. Elle en a les fleuves, les bâtiments, les personnes. Sous ces aspects, elle se différencie foncièrement de la pratique énoncée par Servius, selon laquelle les étrangers avaient pour habitude de recréer l'image de leur patrie. C'est une chose d'imiter ailleurs une ville qui continue d'exister, même si l'exilé a été forcé de la quitter. C'en est une autre de rebâtir le simulacre d'une ville qui a complètement disparu. Entre ces deux manières de dédoubler une ville, il y a autant de différences qu'entre quelqu'un qui garde une image de la personne qu'il aime dans son portefeuille et admette les princes grecs qui mettent une statue d'Alceste, sa femme disparue, dans le lit conjugal et qui en fait un substitut de sa compagne. D'un côté, nous avons l'image d'une personne ou d'une ville réalisée in presentia. De l'autre, nous avons un double construit in absentia. Le mythe d'Alceste et d'Admète nous permet même d'élargir notre champ de réflexion. En effet, nous sommes devant un autre fragment culturel auquel le bricolage virgilien a donné un réemploi pour le moins inattendu. Il arrive souvent de trouver dans la littérature de l'Antiquité des histoires qui tournent autour de la présence des doublures, doubles et simulacres de personnes absentes, du fantôme des Protésilas qui console Laodamie, à la statue d'Alceste qu'Admète garde dans son lit, de l'Eidolon d'Hélène que Paris amène à Troie, convaincu d'avoir enlevé la vraie Hélène, on avait parlé de ça pendant la première conférence, jusqu'à la femme que Néron avait prise pour concubine parce que, disait-on, elle ressemblait beaucoup à sa mère Agrippine. Et ainsi de suite. Mais il s'agit toujours des personnes représentées ou remplacées par d'autres personnes qui leur ressemblent, des fantômes faits d'air, d'images sculptées ou peintures, jamais du double d'une ville entière. Plus on y réfléchit, plus l'invention de la parva troia de Virgile paraît singulière. Si Andromaque avait été simplement une épouse aimante, elle se serait fait faire un portrait d'Hector, comme Laodamie. Mais non, elle et Hélénus se sont fait bâtir les simulacres d'une ville entière. Malheureusement, la parva troia possède aussi un trait fondamental bien enraciné dans sa nature de double. Un déséquilibre, une déficience mélancolique qui ne lui permet pas de remplacer complètement et parfaitement l'original. Pour cerner notre sujet sur cet aspect, nous pouvons nous appuyer sur la théorie développée par Augustin dans ses Soliloquia. Quand l'ouvrage traite la question de la ressemblance, à savoir de la nature même de doubles ou des images de choses réelles, quelles qu'elles soient. Comme vous le savez, Augustin était très intéressé par les problèmes de la sémiotique, on dirait maintenant. Alors, toute cette matière, disait Augustin, double et images, peut être partagée en deux genres. Il y a la ressemblance qu'il appelle in equalibus, c'est-à-dire à égalité, et la ressemblance in deterioribus, c'est-à-dire par appauvrissement. Elle est à égalité, in equalibus, quand nous disons celui-ci est aussi semblable à celui-là que celui-là l'est à celui-ci, comme dans le cas des jumeaux. Ou des empreintes faites avec le même anneau. Donc, il y a ressemblance à égalité chaque fois qu'il n'est pas question d'un modèle, d'une copie, d'un avant et d'un après hiérarchique ou temporel. La ressemblance est réciproque, interchangeable. Inversement, nous avons une ressemblance par appauvrissement quand nous disons que quelque chose d'inférieur à autre chose ressemble à cette autre chose qui est mieux. Car, y a-t-il quelqu'un qui se mettrait devant un miroir et dirait avec raison qu'il ressemble à cette image? Non. Ne dirait-il pas plutôt que cette image lui ressemble? Donc, voilà la in deterioribus. Par conséquent, dans les cas de ressemblance in deterioribus, il se crée inévitablement une disproportion, un déséquilibre avec l'original. Et pour Augustin, c'est aussi le cas de l'art figuratif, des images. Elles sont toujours in deterioribus. Le peintre ne parviendra jamais à remplacer la réalité. La copie sera immanquablement inférieure à l'original. C'est précisément ce qui se produit avec la Troie de Lénus et d'Andromaque. Il suffit de suivre Virgile quand il la décrit. Voilà une Troie identique, mais petite, parva, avec une Pergame qui simule la grande, simulata quae magnis. L'Exante qui coule près de la ville est à sec, Arens. Et le Simois est faux, falsus. Du reste, même le tombeau d'Hector est vide, inanis. La Parva Troia de l'Épire est une Troia in deterioribus. Ses propres habitants seraient sans doute prêts à l'admettre. Mais Andromaque serait-elle prête à l'admettre, alors qu'elle a fait des doubles, des fantômes, sa seule raison de vivre? Retournons au récit d'Énée dans Virgile. Le temps presse, Anchise a décidé de reprendre la mer. Nous sommes au moment des adieux et Andromaque apporte des présents à ses hôtes qui s'en vont. Des abirnes d'or, une clamite phrygienne pour les jeunes Ascagnes et d'autres étoffes précieuses. Et elle parle à Ascagnes comme ça. Reçois aussi ces étoffes, enfant, qu'elles te rappellent mes mains et qu'elles témoignent de l'amour durable d'Andromaque, la femme d'Hector. Reçois ces derniers présent venu des tiens, toi qui es la seule image encore existante de mon petit Astyanax. Donc Ascagne, c'est la seule image du fils d'Andromaque, le petit Astyanax. Il avait ainsi les yeux, les mains, le visage. Maintenant, il aurait ton âge et il grandirait avec toi. Nous connaissons déjà la tendance d'Andromaque à dédoubler non seulement les édifices, les paysages, mais aussi les personnes, puisqu'elle voit les morts dans les vivants. Mais cette fois, elle devient encore plus explicite, pour autant que ce soit possible. Ascagne est clairement appelé imago d'Astyanax. Et la fantaisie mélancolique d'une mère en arrive même à trouver des preuves concrètes pour conforter son hallucination. Ascagne, dit-elle, a les yeux, les traits, les mains de son fils disparu. Ou plutôt, nous dirons, de son cousin disparu. Car il ne faut pas oublier que ces ressemblances entre Ascagne et Astyanax impliquent une parenté. Créuse, comme nous l'avons déjà dit, Créuse, la mère d'Ascagne, est la sœur d'Hector, le père d'Astyanax. Or, la parenté, même dans les ressemblances, se règle sur ses propres lois. Pourquoi Ascagne devrait-il être l'imago de son cousin Astyanax, le fils du frère de sa mère? Il y a une seule explication, toujours la même, Hector. Si Astyanax ressemblait à son père, Hector, et si, plus qu'à son propre père, Ascagne ressemblait à son oncle maternel, encore Hector, on comprend que le fils d'Aîné puisse être l'imago de son cousin disparu. Encore faut-il toujours partir du principe que c'est lui qui occupe toutes les pensées d'Andromaque, qui reste au centre de son identité, Hector est omniprésent. Il reste une dernière chose à dire avant de quitter Andromaque, et après la petite Troie de Virgile. Du point de vue de la médecine de siècles passés, pas la médecine ancienne, mais la médecine du 18e et 19e siècle, Andromaque aurait probablement été considéré comme une malade des nostalgies. Il faut cependant rappeler que le mot nostalgie était inconnu des Romains et aussi des Grecs, malgré les apparences. Est-ce bien qu'il a été forgé en employant deux mots de la langue grecque et en les composant d'une manière par ailleurs correcte, nostos algos, les douleurs du retour. Mais ce n'est pas un mot grec. Il a fallu attendre la fin du 18e siècle en Suisse, 17e siècle en Suisse, pour que le médecin Johannes Hofer, dans une dissertation écrite à 19 ans seulement, donne ce nom bien choisi, nostalgia, au mal qui affligeait les soldats suisses loin de leur pays. Et il arrivait souvent qu'il en meure. La nostalgie, le mal du pays, la peine douloureuse provoquée par les désirs ardents de la terre natale, ou, comme le remarquait Kant avec perspicacité, une grande perspicacité, l'illusion qu'on souffre de ces désirs ardents, alors qu'en réalité, on regrette la jeunesse vécue là-bas, et pas tellement le pays. Or, c'est quelque chose qu'un retour au pays natal ne rendra jamais aux nostalgiques. Et si toute la Parva Troia, son paysage, ses édifices, les fantômes qui l'habitent, était seulement une création de la nostalgie? Voyons. Les Latins n'avaient peut-être pas de termes propres, pour désigner la nostalgie. Ils n'avaient pas le mot nostalgie, évidemment. Mais ils avaient le mot desiderium, qui indiquait les regrets, l'affection de l'âme qui, comme les potos grecs, on éprouve à l'égard de tout ce qu'on ne pourra jamais plus réavoir. Or, le desiderium semble bien avoir quelque chose à voir avec la création d'images. En effet, ce n'est qu'écrivait qu'elles ont le pouvoir d'apaiser, en quelque sorte, le desiderium que les absents éveillent en nous. Nous apprécions les images, dit Sénèque, des absents parce qu'elles font revivre les souvenirs et avec un soulagement vain et inconsistant, elles apaisent les regrets, les desiderium. En revanche, pour Pline, la force de ce même desiderium est telle qu'elle peut arriver à engendrer l'effigie des visages inconnus. Et c'est une citation de Pline. Elles, les images, engendrent des visages inconnus comme cela s'est produit avec Homère. On a beaucoup d'images d'Homère, de Zépline, mais c'est les fruits d'un desiderium. Or, nous avons déjà, nous, dans l'essence moi-même, avons déjà longuement abordé ce thème à une autre occasion, dans un autre livre, en rassemblant de nombreux exemples où la perte d'une personne chère est à l'origine de la création d'une image. Il s'avérerait inutile de reprendre cette voie toute tracée. Toutefois, de ce point de vue, il devient encore plus intéressant de suivre comment Énée fait ses adieux en réponse au mot d'Andromaque. Et il dit « Vivere, vous, dont l'essor est déjà accompli, nous sommes ballottés de vicissitude en vicissitude. Vous avez trouvé la paix. Vous n'aurez à sillonner aucune mer, ni à chercher des campagnes d'Ausonie qui se dérobent sans cesse. Vous voyez l'image, il dit, effigies, du Xanthe et des Troies, faites de vos mains. » Dans ses adieux d'Énée, à ce qui reste, apparaît un élément qui nous intéresse. Quand il définit la Parva Troia qu'il s'apprête à quitter, il a une manière de s'exprimer qui a introduit dans les textes ce que nous attendions depuis longtemps, le thème des images. À entendre Énée, ceux qui restent ne vivent pas dans la ville qu'ils ont bâtie. Ils voient, videtis, ils voient tout simplement Troie. Ils voient aussi une simple effigie du fleuve Xanthe, effigiem Xanthi. Il arrive parfois que le choix d'un verbe ait plus de poids que son verbe descriptif ou que 10 paragraphes d'argumentation. La Parva Troia est à voir, videtis, ni plus ni moins qu'en image. Et le Xanthe qui coule près d'elle est explicitement appelé une effigies, un simulacre que les exilés ont construit de leurs propres mains, tout comme toi. Exactement de la même manière que nous construisons l'image d'une personne absente. En somme, les exilés de Lénus se retrouvent dans les mêmes conditions que les potiers de Corinthe qui, pour apaiser les chagrins de sa fille, lui façonna une image de son bien-aimé disparu. À l'instar de la jeune corinthienne, les Troyens se consolent d'une perte irréparable en contemplant l'image de ce qui n'est plus. Bref, les images ont finalement fait leur apparition dans un épisode dont la structure même ne cessait d'évoquer leur présence dans tout un jet de doublures, d'ombres, de ressemblances. Maintenant, nous savons que la Parva Troia est le double de la ville détruite, une effigies que ses habitants ont construite de leurs mains, une consolation sous forme de simulacre pour supporter les desideriums qui les minent. Mais si ce double ville est un monument élevé à la nostalgie et au souvenir, il reste une dernière conclusion à tirer. En effet, on oublie très souvent la signification anthropologique, peut-être plus profonde, que l'érection d'une statue ou simplement la dévotion à une image d'une personne recelait et recèle encore aujourd'hui. Quand Admète promet à sa femme Alceste de conserver dans le lit conjugal une statue à sa ressemblance et de la traiter comme si c'était elle encore en vie, en fait, il est en train de lui jurer une fidélité absolue. Il est aussi fidèle qu'un amoureux qui garde la photo de sa bien-aimée dans son portefeuille. L'image incarne la fidélité, le respect d'un engagement. Les images sont souvent devenues des objets sacralisants, comme les appelait Benveniste, dans l'histoire de la culture. Elles ont souvent été invoquées pour représenter concrètement un serment que l'on s'est engagé à respecter fidèlement. L'image est pacte. Nous avons déjà, dans l'essentiel même, dans ce livre-là, les portraits de l'amant, traité ces sujets à une autre occasion. Mais nous pouvons rappeler que dans la culture contemporaine aussi, la statue d'un roi, d'un ministre ou d'un dictateur est élevée pour signifier aussi une fidélité au souvenir de la personne représentée, pour attester qu'un pacte est respecté, quitte à les rompre ostensiblement en abattant les images de ceux auxquels on ne veut plus être lié. Les compagnons de Lénus, en réalisant les figuies la plus singulière qui soit, les doubles d'une ville entière, produites de leurs mains, comme dit Virgile, ont clairement signifié leur fidélité à leur patrie d'origine. Une fidélité qui implique les choix dans les Troyens pour y vivre, la reconstruction difficile d'une certaine porte, d'une citadelle, d'un tombeau à proximité de la ville, etc. Tous ces Troyens sont non seulement nostalgiques, mais aussi fidèles à leur patrie. À présent, nous pourrions aller jusqu'à dire que ce sont des citoyens trop fidèles à leur ville disparue. Mais qu'en est-il d'aînés? Quel type de citoyen est-il? Selon René de Chateaubriand, dans un chapitre de son Génie du christianisme, l'exilé dispose de deux manières de cultiver les souvenirs de son pays natal ou encore de satisfaire ce que Chateaubriand appelait dans les titres de ce chapitre, l'instinct de la patrie. Certes, il s'agit là d'une satisfaction simulatoire, fantasmatique, car le seul moyen d'apaiser cet instinct consisterait tout simplement à retourner dans son pays, si ce n'est que c'est rarement possible. Heureusement, comme dit Chateaubriand, le cœur est expert en tromperie. Mais voyons de quoi il est question, et c'est la citation de Chateaubriand. Tantôt, c'est une cabane qu'on aura disposée comme les toits paternels. Tantôt, c'est un bois, un vallon, un coteau à qui l'on fera porter quelques-unes de ces douces appellations de la patrie. Andromaque donne le nom de Simoïs à un ruisseau. Voilà, c'est notre passage. Andromaque donne le nom de Simoïs à un ruisseau. Et quelle touchante vérité dans ces petits ruisseaux qui retracent un grand fleuve de la terre natale. Loin des bords qui nous ont vu naître, la nature est comme diminuée et ne nous paraît plus que l'ombre de celle que nous avons perdue. Ou notre ruse de l'instinct de la patrie, c'est de mettre un grand prix à un objet en lui-même, de peu de valeur, mais qui vient de notre pays et que nous avons emporté dans l'exil. L'âme semble se répandre jusque sur les choses inanimées qui ont partagé nos destins. Une partie de notre vie reste attachée à la couche où reposa notre bonheur. Et surtout à celle où veilla notre infortune. Ce passage pourrait déjà constituer évidemment un commentaire remarquable, presque parfait, sur la parva troya virgilienne, ses tromperies nostalgiques. Lorsqu'il reconnaît dans les faux Simoïs un trait de nature diminué, Chateaubriand fait une observation d'une grande finesse. Et c'est dommage que les commentateurs de Virgile ne l'ont pas reprise. Aux yeux d'un exilé, même la nature, qui n'est jamais qu'elle-même, devient l'ombre d'une autre nature plus vraie, celle de son pays natal. Mais ce passage nous intéresse plutôt en ce qu'il constitue une première ébauche, une ébauche d'une théorie possible de l'identité de l'exilé. Car il n'est fait aucun doute que l'instinct de la patrie évoqué par Chateaubriand est une transposition romantique de ce que nous définirions aujourd'hui plutôt comme un problème d'identité perdue ou niée. loin de sa patrie, autrement dit loin de la terre, de la ville, qu'il identifie dans un système de référence précis, l'exilé tente de ressaisir les fils de son appartenance avec les tromperies de l'image ressemblante ou d'un objet qui provient de son pays. Naturellement, nous pourrions redéfinir ces manières de renouer symboliquement avec une identité perdue, la recherche de ressemblance ou l'attachement à un objet, avec des catégories plus modernes, par exemple celle de la métaphore. Une ville qui ressemble à Troie, qui en est l'image, c'est une métaphore de Troie, et des métonymies, un objet de la patrie lointaine, un fragment qui a été en contact avec ce monde perdu. C'est une métonymie, alors, de la ville perdue. Ou même une autre possibilité, dans les sillages de Fraser, nous pourrions aussi évoquer la magie analogique, une image qui ressemble au bien-aimé volage et par contact, une boucle de ses cheveux. Mais au fond, les choses ne changeraient pas beaucoup. Andromaque ferait toujours partie de la première catégorie, c'est-à-dire catégorie métaphorique, de ressemblance. Aéné demeurerait dans la seconde, avec ceux qui entretiennent leur nostalgie par le biais d'un objet qui rappelle la patrie lointaine. Voilà un point que nous tenons à souligner. En effet, il ne sera pas permis à Aéné de renouer avec son identité troyenne en bâtissant par analogie la ville qu'il a perdue. On a déjà dit ça avant. Il ne peut recourir aux tromperies des images et des noms simulés. Chaque fois qu'il a essayé de le faire, quelqu'un ou quelque chose, le fatum, le sort en définitive, lui a défendu de poursuivre l'aventure, même d'une façon violente. Toutefois, Aéné a emporté quelque chose d'étroit avec lui, les pénates. Il s'agit d'un objet de grande valeur, et non d'une parcelle négligeable d'étroit, bien au contraire, mais les pénates rentrent dans la catégorie de ce que Chateaubriand mettrait en deuxième position, en contact, non plus par les biais d'images, mais par celui d'objets concrets. Les pénates représentent Troie d'une forme non pas métaphorique, mais métonymique. L'identité troyenne qu'ils sont en mesure de véhiculer n'est pas de caractère sympathique. Elle agit par contact. Aéné définit son identité du fait qu'il détient un objet résolument troyen. Le problème d'Aéné, cependant, c'est qu'il croit appartenir à la première catégorie. Comme nous le savons, les héros veut rebâtir toi. Il a déjà tenté de le faire et il tentera encore. Or, il se trouve qu'il ne lui est pas donné de pouvoir exaucer ses vœux. Contrairement à Hélénus et à Andromaque, Aéné ne pourra pas dédoubler sa ville perdue. Il lui reviendra exactement le contraire, puisqu'il devra perdre complètement sa patrie pour en accepter une autre. Et c'est la fin du poème, ça, c'est le deuxième livre. La volonté de Junon et plus tard celle de Jupiter feront de lui un exilé qui disparaît, qui s'efface, qui renonce non seulement à rebâtir un jour sa ville, mais aussi à conserver son identité nationale. Parce que dans le pacte entre Junon et Jupiter, il est écrit que les Troyens, il abandonnera les noms de son peuple, ils ne seront plus Troyens, ils seront des Latins. La langue, qui sera oubliée à jamais, parlant latin, les coutumes, les mores, jusqu'à peut-être les traits somatiques nationaux, aura. Au lieu de rebâtir toi en Italie, les Troyens s'y perdront eux-mêmes, puisqu'ils accepteront de prendre le nom des Latins. Heureusement qu'ils ont le pénate. Cet objet sacré, le cœur même de la ville, sauvera d'une certaine façon, leur identité. Mais tout le reste est perdu. Les Troyens de Hélénus représentent l'exact contraire. Métaphoriques jusqu'à l'invraisemblable, bâtisseurs de doubles, ils pâtissent presque d'un excès d'identité. Ils sont trop Troyens. Leur vie est une nostalgie continuelle et ils peuplent leurs jours de souvenirs. Aéné et ses compagnons, par contre, sont forcés de se dépouiller de leur identité. L'avenir leur impose d'oublier qu'ils sont, de couper les ponts avec la ville qui les a vus naître, d'effacer leur langue, leurs coutumes. Ils doivent accepter l'amnésie. Junon l'exige, pour mettre fin à la guerre et rendre possible les brassages des peuples. Je vous remercie.